Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce. Mon nom est Antoine Gagné et mon objectif est de vous aider à bâtir un commerce élite. Et cette semaine, on parle de email marketing, mais surtout en mode copywriting. Steve Toiteau, expert en la matière, vient nous révéler une approche assez distinctive qui a généré des résultats exceptionnels avec ses clients. Bonne écoute! Encore une fois, une chronique Google Ads. Dans cette chronique, on va regarder les dernières nouvelles annoncées par Google. La première nouvelle concerne la disparition de certains modèles d'attribution. Les modèles d'attribution sont utilisés pour comprendre et attribuer la part de crédit correspondante à chaque point de contact avec lequel l'utilisateur a interagi durant son chemin de conversion. Cependant, avec la complexité croissante des parcours utilisateurs où les visiteurs interagissent avec différentes annonces sur différents canaux et appareils, il est essentiel de prendre en compte cette complexité dans la gestion et l'optimisation de nos campagnes et budgets. À partir de juin, il ne sera plus possible de sélectionner des modèles d'attribution autre que des attributions au dernier clic ou l'attribution basée sur les données. En septembre, tous les modèles qui n'utilisent pas ces options passeront automatiquement à l'attribution basée sur les données. Chez Pure Commerce, on recommande de choisir le modèle basé sur les données qui vous permettra de mieux comprendre le parcours utilisateur car la conversion est un travail d'équipe. La deuxième nouvelle concerne la disparition des audiences similaires à partir du 1er mai. Les segments d'audiences similaires sont des groupes de personnes qui, en fonction de leurs caractéristiques, comportements et centres d'intérêt en ligne, ressemblent à vos clients ou visiteurs. Ces audiences étaient utilisées pour accroître la pertinence de nos campagnes, notamment en display, en touchant une audience froide, mais avec du potentiel. À partir de mai, il ne sera plus possible de créer de nouvelles audiences similaires, mais avec les audiences similaires existantes, seront actives jusqu'au 1er août, date à laquelle elles seront définitivement supprimées. Google propose différentes solutions en fonction des types de campagnes, telles que les stratégies d'enchères intelligentes pour les recherches et les annonces shopping, la fonction ciblage optimisée pour les campagnes display ou encore le paramètre élargissement de l'audience pour les campagnes vidéo. Chez Pure Commerce, on vous recommande de commencer à mettre en place ces fonctionnalités dès que possible pour être prêt pour la suppression définitive des audiences similaires. Et si vous n'utilisez pas encore d'audience dans vos campagnes, il est temps de les tester. Enfin, avez-vous déjà voulu savoir quelles annonces vos concurrents diffusent? Google nous offre maintenant la possibilité de le faire grâce au Google Ads Transparency Center, similaire à la bibliothèque d'annonces de Facebook. Vous avez deux options. Lors d'une recherche Google où votre concurrent apparaît, vous pouvez cliquer sur les trois petits points à côté de l'URL pour voir d'autres annonces de votre concurrent. Vous pouvez également y accéder directement via le adtransparency.google.com pour rechercher un concurrent en particulier, même si vous ne pouvez pas voir ces annonces en fonction de votre localisation, par exemple. On vous recommande d'utiliser cet outil de manière éthique en évitant de voir les idées de titres, vidéos, images de vos concurrents, mais plutôt de l'utiliser comme source d'inspiration pour créer vos propres meilleures annonces. C'est tout pour nos actualités Google du jour. Le email marketing pour des boutiques en ligne a toujours été vu comme une exposition de nos offres promotionnelles. C'est une approche qu'on utilise chez Pure Commerce, mais n'y aurait-il pas d'autres avenues intéressantes à tester? Cette semaine, Steve Toiteau, expert en emailing, mais spécialisé surtout en copywriting, est avec nous pour nous démontrer une nouvelle approche qui a fait ses preuves avec l'ensemble de ses clients. Soyez prêts, ça commence maintenant. Donc, on est de retour sur le podcast Commerce Élite en mode discussion. Et cette fois-ci, je suis en compagnie de Steve Toiteau. Steve Toiteau qui est un expert en copywriting, spécifiquement pour le volet emailing pour les boutiques en ligne. Donc, c'est parfait parce que les gens qui nous écoutent, on le sait, ce sont des e-commerçants. Ce sont des gens qui veulent trouver des manières d'augmenter, de faire croître leur boutique, croître les ventes également de leurs différents produits. Steve Toiteau, comment ça va aujourd'hui?
Eh bien, écoute, ça va super. Je suis ravi d'être sur le podcast aujourd'hui.
Et Steve, Steve, je pense qu'on a une très belle étude de cas aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent, qu'on va être capable de regarder en détail parce que comparativement à énormément de gens qui vont faire du email marketing et spécifiquement même chez nous, chez Burcommerce, on fait beaucoup de email marketing, mais d'une manière très distincte de ce que toi tu approches, de la manière que tu utilises avec tes clients. Et je pense que tu as une étude de cas avec l'organisation Top Brush qu'on va être capable d'analyser ensemble aujourd'hui. Tu as pris les anciennes techniques de emailing, tu les as mis de côté et tu es arrivé avec une nouvelle approche, une approche qui est moins orientée vers le volet promotionnel, vers le volet publicitaire, mais davantage sur le volet storytelling. Peux-tu nous décortiquer tout ça aujourd'hui, Steve, pour être certain que notre audience soit capable de comprendre de quelle manière tu t'y prends quand tu fais du email marketing?
Ouais, ouais. En fait, si tu veux, moi, quand j'ai commencé l'email marketing e-commerce, je me suis dit... Tout le monde fait de l'email très, très, très design, très, très lourd, très, très promotionnel driven. Tu vois un petit peu le truc. Je me suis dit, comment moi, je peux sortir du lot et faire des emails différents pour mes clients? Donc, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, la plupart des emails que tu reçois d'e-commerce, avec tout le respect que j'ai pour les e-commerçants, ça donne pas vraiment envie de lire ces emails, tu vois. Il y a beaucoup de design, il y a très peu de texte. Enfin, c'est pas comme ça que tu crées une relation de confiance, que tu tisses du lien. Et du coup, moi, avec mon approche copywriting, je me suis dit, je vais faire des emails très textuels avec un tout petit peu de design et d'image pour montrer les produits, bien sûr. Et donc, j'appelle ça des emails hybrides, c'est-à-dire 80% de texte et 20% d'image. Bon, bien sûr, ça peut descendre à 70-30, mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un peu un ratio comme ça. Et donc, le fait de faire comme ça, je pense, ça te permet vraiment de créer une relation qui est différente avec ton lecteur. Tu peux lui parler comme si tu parlais avec un ami, comme si tu parlais avec un proche. Et du coup, tu crées vraiment plus de liens et ça te permet de faciliter la vente plus tard, tu vois, plutôt que d'être tout de suite agressif avec des gros designs. Je sais, moi, par exemple, pour te dire, quand je sais pas comment toi tu es, mais quand tu reçois ce genre d'email, tu te dis direct, ah, c'est bon, là, ils vont essayer de me vendre quelque chose. Ça clignote dans tous les sens, tu sais. Et donc, j'ai essayé de faire l'opposé, en fait. J'aime bien un petit peu le livre de Seth Godin, la vache pourpre, tu sais. C'est un petit peu l'approche que j'ai et que j'essaye d'avoir. C'est de faire, en fait, l'opposé de ce que fait le marché, si tu veux.
Et je crois que tu as un très bon cas qu'on va pouvoir décortiquer ensemble aujourd'hui qui va prouver la fonctionnalité, les résultats que tu es capable de générer pour tes clients avec cette approche-là. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu le contexte de où se situait le client avant que tu arrives dans le portrait et également quelles ont été les intégrations, les changements que tu as fait au compte Klaviyo, je pense ici, et ultimement nous dire quels ont été les résultats?
Ouais. Alors en fait, si tu veux, moi, c'était l'année passée, je crois, il y a un client qui vient me voir qui vendait des produits capillaires, donc des brosses à cheveux, des soins à la kératine, vraiment tout pour la chevelure. Et en fait, il avait contacté, je crois, un freelance en email marketing e-commerce pour lui faire des emails. Et en fait, il n'était pas forcément très content des résultats. Et en fait, un client à moi l'a recommandé. Donc, il est venu vers moi pour me dire, écoute, il paraît que tu fais de l'email marketing, machin. Moi, ma séquence de bienvenue, de panier abandonné et de post-achat, elle convertissent pas très bien. Est-ce que tu pourrais m'aider? Donc moi, je lui dis, je vais déjà regarder un peu sous le capot, tu vois. Donc j'ouvre le capot Klaviyo, je regarde un peu ce qui se fait. Et là, je vois des emails très, très design, très, très lourd, très, très peu de copywriting, des objets d'email très, très un peu ennuyeux. Je me suis dit, je pense que je peux t'aider, tu vois. Donc je lui dis, on va commencer par la séquence de bienvenue. On va essayer d'optimiser ça et de voir ce que ça donne. Quand j'ai commencé avec lui, les taux d'ouverture de sa séquence de bienvenue tournaient autour des 32% de mémoire. En moyenne, on est d'accord. Et les ventes, c'est pareil, c'était pas fou, tu vois. Il avait un peu de mal là-dessus. Donc moi, je lui dis, écoute, ce qu'on va faire. Donc la première étape, on va retravailler les objets d'email parce que c'est un petit peu, enfin, ça donne pas envie. Il y avait zéro curiosité, il y avait zéro bénéfice associé. Ça donnait vraiment pas envie de cliquer. Donc on a déjà retravaillé les objets d'email. Ensuite, je lui ai dit, moi, j'ai une approche vraiment différente de l'email marketing. Je vais supprimer tes designs. Je suis désolé, tu as peut-être payé pour ça, mais c'est mon approche. On aurait pu faire un A/B test, tu sais, pour voir. Il a décidé de pas le faire. Il m'a fait confiance. Donc, j'ai enlevé tous les designs et je suis parti d'une feuille blanche en faisant du copywriting. Donc, vraiment en essayant d'écrire pour la personne en face, lui faire comprendre qu'on pouvait l'aider, parler dans son langage et tout ça. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Il y a un autre truc que j'ai fait aussi, c'est que j'ai placé le code promo de l'email dans la... Parce que quand tu arrivais sur le site, il y avait une pop-up qui était déclenchée. Et en fait, le, mon client laissait le code promo directement dans la pop-up et je lui dis, c'est pas mal parce que ça crée moins de friction. Mais si tu veux faire de l'email marketing un peu plus souvent, il faut entraîner les gens à aller chercher des choses dans leur boîte mail et voir ton nom, voir le nom de ta marque. En plus, c'est super bon pour la délivrabilité. Les serveurs Google, Gmail, Yahoo et tout ça, ils aiment bien. Donc, ça indique des bons signaux. Donc, on a mis le coupon dans l'email de numéro 1. Donc, ça, c'est la première chose. Après, comme je te disais, on a retravaillé le copywriting des objets d'email. Ensuite, j'ai retravaillé la structure des emails. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, dans ces emails, ils parlaient de 15 choses en même temps. Il parlait d'aller sur son article de blog, il parlait d'un nouveau produit, il parlait de plein de trucs. Et en fait, il n'y avait pas de big idea, tu vois. Il n'y avait pas une seule idée dans chaque email. Donc, du coup, moi, j'ai un petit peu supprimé tout ça. J'ai dit, dans cet email, on va parler de ça. Vraiment en mode minimaliste, on parle que d'une chose. Parce que du coup, si tu mets plein de choses dans le même email, tu dilues un petit peu la puissance du message. Donc, j'ai choisi, donc dans cet email, on va parler de ça, dans cet email, on va parler de ça. J'ai suivi une structure qu'on connaît tous, AIDA, donc attention, intérêt, désir, action, une structure de vente classique. Et donc, après, j'ai retravaillé aussi la stratégie globale de la séquence, c'est-à-dire dans cet email, voilà, comme je te disais là, on va parler de ça, celle-là, on va parler de ça, et essayer d'écrire des emails qui donnent vraiment envie aux gens d'ouvrir. Tu vois, par exemple, leur apporter de la valeur, leur dire, peut-être que vous avez...
Et là, tu supprimes le design au complet, là.
Ouais, je suis reparti from scratch. En fait, si tu veux, l'email, il est tout blanc. T'as l'impression que ça peut être un email qui vient de tes parents, ta mère, ton père, je sais pas, ou même d'un ami, ou des impôts, ou tu vois. Vraiment, le fond est blanc, la police est noire. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets du texte, je mets une image. Je mets du texte, je mets une image. Et l'idée, c'est vraiment qu'on voit que c'est un email qui est personnel. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que... je me suis vraiment, vraiment intéressé au persona, c'est-à-dire qui achète les produits, pourquoi, comment, c'est quoi leur désir, leur frustration. Et en fait, j'ai écrit des emails qui leur apportaient quelque chose. Je me souviens, on avait fait un email sur « Saviez-vous que vous aviez, je ne sais plus, des milliers de bactéries dans les cheveux si vous continuez d'utiliser votre vieille brosse et vous nettoyez pas la brosse ?» En fait, ça ne sert à rien. Enfin, j'essaie vraiment d'apporter de la valeur aux gens et de leur faire passer un bon moment, tu vois, et tout en écrivant des emails qui soient divertissants, tu vois, pas boring, tu vois, un truc un peu cool avec un petit peu de rythme, un petit peu de musicalité. Et du coup, ça a plu. La preuve, ça a plu parce que au niveau des KPI, donc comme je te disais tout à l'heure, le taux d'ouverture de la séquence, elle était de 32%. Donc après, je suis repassé dessus sur les objets d'email et sur les emails en général. Les taux d'ouverture sont basés à 46%, donc tu vois on a pris 14%, et les ventes sur la séquence globale, ils ont été multipliés par 3. Donc voilà. Wow.
Dis-moi, là on parle de flow ici que tu as été capable de mettre en place. Je serais curieux de t'entendre également peut-être sur les email blasts, sur les infolettes, parce que clairement on voit une amélioration des taux d'ouverture au niveau des flows. Mais est-ce que tu vas prendre au final avec tes clients la même structure si on veut faire des envois, des email blasts pour faire des ventes promotionnelles, pour peut-être même essayer d'envoyer du contenu? Comment tu vas t'y prendre quand on va être ailleurs que simplement des flows?
Moi, j'utilise tout le temps la même façon de faire, c'est-à-dire des emails qui soient conversationnels, que tu sois dans une séquence, que tu sois dans une newsletter basique ou peu importe. L'idée, c'est d'envoyer du contenu qui soit intéressant et qui n'ait pas l'air d'être un email marketing e-commerce, tu vois. Tu reçois assez d'emails de marques ultra colorées qui essayent de te mettre en avant un code promo toutes les deux semaines. Ça, c'est assez chiant. J'essaie vraiment de faire l'inverse et d'apporter des emails qui soient intéressants à lire, pas forcément très longs, tu vois. Il faut que ça fasse, je sais pas, entre 300, 400 mots, tu vois, c'est cool. Mais encore une fois, il faut que la première ligne donne envie de lire la deuxième, la troisième, la quatrième. Tu fais monter le désir sur un produit ou sur une histoire ou peu importe. Et en fait, si tu vends pas dans l'email, c'est pas très grave parce que l'email d'après, peut-être que tu vendras. L'idée, c'est vraiment de faire avancer les pions petit à petit plutôt que de jeter en premier ton pion et d'essayer de vendre coûte que coûte, si tu veux. C'est un peu comme les effets composés, quoi. C'est petit à petit, tu ajoutes des briques pour créer de la confiance, si c'est du lien, et après, la vente, elle est beaucoup plus simple derrière.
À tous les auditeurs du podcast Commerce Elite, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que la croissance de votre commerce en ligne va à la vitesse dont vous le souhaitez? Est-ce que dans votre plan marketing, vous avez la bonne balance entre campagne Facebook et Google Ads, stratégie emailing adaptée ou encore création de vidéos natives? Chez Pure Commerce, on s'est aperçu à travers les années que nos clients en commerce électronique qui avaient la croissance la plus forte possédaient chacun des éléments mentionnés plus haut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a bâti une agence 100% dédiée à la croissance des boutiques en ligne, en offrant tous les services qu'une boutique se doit d'avoir pour grandir. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire de croissance pour débuter l'année en force, rendez-vous au www.purecommerce.co/analyse. Donc, je le répète, purecommerce.co/analyse, ou encore venez me parler directement sur LinkedIn afin qu'on puisse regarder comment on peut vous aider. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Là, tu as mis ça en place pour la séquence de bienvenue. Tu penses également le mettre en place pour des email blasts, des infolettres. Est-ce que tu le mets en place également pour les autres types de séquences fondamentales pour un e-commerce, comme les séquences de browse abandonment, de panier abandonné? On va également appeler ces séquences-là en anglais les séquences de win back, les séquences de post-achat. Est-ce que ces mêmes structures-là sont intégrées pour ce client-là?
Oui, exactement. J'ai pas de KPI à te donner parce que l'étude de cas que j'ai fait, elle est sur la séquence de bienvenue, mais c'est la même chose. C'est l'email, il faut qu'il soit ultra personnel, ultra... T'as vraiment l'impression que c'est la personne qui t'a écrit, qui a pris 5 minutes pour t'écrire. Après, tu parlais de browse abandonment ou de panier abandonné. Bien sûr, je mets l'email du panier qui a été abandonné, tu vois. Et je veux dire, le design global de l'email, je fais pas de design. C'est un email blanc. Après, bien sûr, tu peux faire une petite police sympa, Arial, je sais pas, comique ou ce que tu veux. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit blanc, que t'aies l'impression que c'est vraiment une personne qui t'écrit, et ça crée un peu un pattern interrupt. Tu sais, quand tu ouvres ton email, tu dis, oula, c'est blanc. Par exemple, je te donne un petit conseil, j'avais fait un AB test aussi là-dessus, de mettre le header. Par exemple, tu vois, le header en haut. Moi, je mets pas de header en haut, je le mets en bas. Parce que les gens, s'ils voient tout de suite que, déjà, un gros banner, tu vois, je pense, d'après mon test, hein, en tout cas, ça donne pas envie de scroller la fin. Alors que si t'attaques tout de suite par du texte, t'as l'impression que c'est important. T'as l'impression que l'email, il va te dire quelque chose qui est hyper important. Et en bas, moi, je mets le logo ou le footer dans le footer. Peu importe l'email, peu importe la séquence. Pour moi, un email, ça doit être personnel. Ça doit avoir l'impression que c'est important, même si tu y mets des images dedans. Mais le fond reste le même. Il est blanc. Après, tu peux être légèrement tu vois, tu peux avoir une légère teinte, mais plus, encore une fois, plus il ressemble à un email qui vient pas d'une marque e-commerce, plus les gens, ça les intéresse. Enfin, ça pique la curiosité, si tu veux.
Intéressant. Et dis-moi, bon, on parle un petit peu de ce qui s'intègre dans l'email, mais bien entendu, si c'est un email de la sorte, on a l'impression que c'est envoyé par un particulier et non une entreprise. Donc, ma question pour toi maintenant est la suivante. Quel est le sujet que tu vas mettre dans ton email? Est-ce que ça va venir du nom de l'entreprise? Est-ce que ça va venir du nom du fondateur? Est-ce que ça va venir du nom de la personne qu'on voit habituellement quand cette entreprise-là est promue sur les médias sociaux? Comment tu t'y prends ici?
Ça dépend vraiment de la marque avec qui je travaille. Je demande, on écrit au nom de qui, tu vois? Est-ce qu'on écrit au nom du fondateur? Est-ce qu'on écrit au nom de l'équipe, tu vois, l'équipe de la marque? Ça dépend vraiment. Ça dépend aussi, tu vois, il y a des marques qui veulent pas vraiment faire du personal branding, elles veulent vraiment rester sobres, vraiment. Donc vraiment ça dépend. Mais dans tous les cas, peu importe pour qui tu écris, il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit personnel, il faut que ce soit conversationnel pour que ça donne vraiment envie de lire et que tu dises putain, on m'a écrit à moi, attends, c'est cool quand même, tu vois. Je dis pas forcément de faire du plain text en mode plain text. Mais vraiment de rendre ça le plus personnel possible, quoi.
Intéressant. Steve, merci beaucoup pour l'information, pour ce cas pratique. Je pense que c'est des choses qu'on pourrait mettre en place également dans notre organisation et pour les gens qui nous écoutent de le tester. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter par rapport à cette structure, par rapport à cette technique-là qui pourrait peut-être aider notre audience?
Peut-être qu'on peut parler. Enfin, on me demande souvent c'est quoi la structure d'une séquence de bienvenue idéale, tu vois. Tout à l'heure, j'auditais un compte Klaviyo, une séquence de bienvenue sur Klaviyo. L'email numéro 1, c'était forcément le code promo. L'email numéro 2, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et l'email numéro 3, c'était est-ce que vous avez vu notre nouveau produit, tu vois? Encore une fois, je dis pas que c'est mal. C'est juste que moi, j'ai une approche qui est différente. C'est que je me dis, avant de chercher à abonne-toi à mes réseaux sociaux, avant de chercher à est-ce que tu as vu cet autre produit, c'est un petit peu pushy. Pourquoi pas prendre le temps, en fait, de créer de la confiance, tu vois? Et donc, moi, je pars de ce postulat-là et je me dis, comment créer de la confiance? Déjà, explique pourquoi tu es la meilleure solution. Explique. Pourquoi tu fais ce que tu fais, comment tu le fais, qui t'a aidé. Donc, ce que je fais, c'est que l'email numéro 1, par exemple, je donne le code promo et je tease l'email numéro 2. Je dis, voici votre code promo, merci beaucoup, bienvenue dans l'aventure. En fin de mail, je dis, dans les prochains jours, je vous partagerai l'histoire de la marque ou je partagerai pourquoi on a créé la marque ou tu vois, un truc qui soit un petit peu intéressant. Donc, dans l'email numéro 2 que j'envoie 2 jours après ou 1 jour après, ça dépend, je partage l'histoire de la marque. On a créé cette marque il y a tant d'années parce que j'avais des problèmes moi aussi et je trouvais pas de solution. Donc, j'ai créé ma propre marque. Tu vois un peu l'idée, un peu de storytelling. L'idée là, c'est vraiment de faire du storytelling pour que les gens se reconnaissent dans ta marque et se disent « Ah ouais, putain, il a pas créé cette marque juste pour faire de la thune, tu vois. » Donc, je pense que c'est hyper important que les gens sachent. Après, le troisième email, j'aime bien parler des bénéfices du produit, tu vois. Pourquoi mon produit ou pourquoi mes produits sont efficaces? Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter concrètement, fondamentalement? Après, l'email numéro 4, j'aime bien partager des témoignages clients, dire, bah voilà, il y a Monique qui a utilisé ses produits, elle a pensé ça, elle avait ça comme problème, du coup, elle l'a essayé, boum, elle est comme ça maintenant. Et puis, l'email numéro 5, soit je peux faire une petite FAQ, tu sais, pour essayer de casser les dernières objections que pourrait avoir la personne. Peut-être que c'est sur la livraison, peut-être que c'est sur est-ce qu'on peut renvoyer le produit s'il me convient pas. Enfin, vraiment essayer de casser tout ça. Ou alors un petit email sur les valeurs de la marque. Ben, nous, nos valeurs, c'est qu'on est éco-responsable, c'est qu'on fait pas de la fast fashion, on fait du slow fashion. Vraiment essayer encore une fois, de tisser de la confiance et de que les personnes s'identifient à ta marque, en fait. Ça, c'est ultra important. Parce que les gens achètent... Oui, on achète pour le prix, tu vois. On se dit, bah, moins c'est cher, mieux c'est. Mais je pense que de plus en plus, on essaie de se reconnaître à des marques. Et tu vois, si tu véhicules pas tes valeurs, les gens ne le savent pas. Et du coup, tu deviens une marque comme les autres. Et l'idée, c'est vraiment de sortir du lot en partageant son histoire et ses valeurs.
Intéressant. Et si on va en apprendre un petit peu plus sur toi, Steve, je pense que tu as un podcast. Peut-être que tu pourrais nous en dire plus.
Ouais. Alors, du coup, j'ai créé un podcast tout au début où je me suis lancé dans l'email marketing parce que justement, comme je débutais, je savais pas vraiment comment faire. Donc, je suis parti à la rencontre des personnes qui étaient meilleures que moi pour leur poser des questions, clairement. C'est comme ça que j'ai vraiment quasiment tout appris. Donc, j'ai un podcast qui s'appelle Email Explore. Donc, voilà, j'interviewe des personnes qui font l'email marketing. Ça peut être des agences, des freelances, ça peut être des copywriters, ça peut être tout style de personnes qui écrit des emails pour vendre. Ensuite, j'ai créé une chaîne YouTube aussi où je documente un petit peu mon aventure de copywriter spécialisé en email marketing e-commerce. Donc, je donne pas mal de techniques, ce que je peux. Et j'ai créé une newsletter aussi sur l'email marketing e-commerce. Si vous la retrouvez, vous pouvez vous rendre sur mon site stevetoitou.com. Il y a une petite pop-up, tac, et vous pouvez rentrer votre adresse mail.
Je mettrai des liens dans les notes de l'épisode.
Ouais, sinon sur LinkedIn aussi, excuse-moi, je t'ai coupé. Sinon sur LinkedIn aussi, je suis pas mal actif sur LinkedIn. J'essaye de donner un peu de valeur, de partager des trucs cool. Donc, si jamais LinkedIn.
Fantastique. Donc, on mettra encore une fois, je le répète, tous ces beaux liens dans les notes de l'épisode. Steve Toitou, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Élite.